Bonjour. Votre magazine Métropole Mag est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Aujourd'hui, votre lectrice pour l'entièreté de ce numéro, le numéro 5 de novembre-décembre 2022, est Nicole Fantinetti. Grenoble-Alpes-Métropole. L'actualité du territoire et des services publics. En couverture, énergie, la sobriété sans anxiété. Page 7, Convention citoyenne pour le climat, des propositions choc. Les 100 membres de la Convention citoyenne ont rendu leur copie. En page 8 et 9, plusieurs sujets. Pourquoi nous en sommes là? Le plan de sobriété de la métropole, des conseils pas chers pour baisser vos factures. En page 13, les zones à faibles émissions pour les voitures. La concertation se poursuit en décembre dans plusieurs communes. En page 24 et en page 20, élection des représentants de locataires HLM, rencontre avec des habitants qui s'impliquent dans la gestion de leur immeuble. Les pages 2 et 3 sont des pages avec de très jolies photos, dont je vais vous lire la légende. La photo la plus likée sur Instagram, l'hypercentre grenoblois, photographié au début de l'automne. Le jardin des plantes, fondé en 1782, ici au premier plan, est le premier jardin botanique de Grenoble. Rendez-vous sur instagram.com/Grenoble-Alpes-Métropole, toute nue. Street Art, l'œuvre démesurée, avenue Labruyère à Grenoble, sur un pan de 50 mètres, a été réalisée par l'artiste australien Guido Van Helten à l'occasion du Street Art Fest. C'est la plus grande peinture exécutée dans la ville depuis le lancement du festival en 2015. L'inspiration pour produire cette œuvre colossale provient du lieu même où elle est réalisée. Histoire, culture, tradition, visages locaux. Concours. Le lycée Lesdiguières de Grenoble a eu la chance d'accueillir la finale du concours des meilleurs ouvriers de France, MOF, les 15 et 16 novembre. L'occasion d'une grande photo de famille devant ce superbe bâtiment. Déménagement. Le siège de la métropole vient d'être transféré. C'est dans le quartier Hoche, au 1 place André Malraux, qu'elle vous accueille désormais. Le temps pour la métropole de mener un ambitieux projet d'extension et de rénovation thermique de son siège de la rue Malakoff. Experimenta. La Biennale Experimenta, rencontre entre les arts et les sciences, a offert cette année de nouveaux moments forts dans plusieurs lieux de l'agglomération, tels une kinésphère de l'artiste circassienne Rachel Martin, un corps en mouvement dans un isocaèdre, fascinant de légèreté et de beauté. Le mot de Christophe Ferrari, président de la métropole. Une convention citoyenne qui tient ses promesses. Je veux dire merci aux 100 citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat qui ont remis collectivement leurs propositions après plusieurs mois de réflexion, de débats et de cheminements individuels. Parce que c'est dans le dialogue et le respect mutuel que les choses avancent et trouvent consensus. Une expérience unique dans leur vie de citoyen et une démarche unique pour nous aussi élus, qui va nous amener en mars 2023 à voter les propositions présentées. Ce travail nous aidera à aller plus vite, plus loin. N'en doutons pas. une pratique cyclable accessible au plus grand nombre et au moindre coût. De nouvelles primes à l'achat de vélos pour une mobilité vertueuse, avantageuse et juste. C'est le nouveau dispositif d'aide qui va voir le jour en partenariat avec le SMMAG et le Crédit Vaudan. Il s'agit d'une aide à l'achat de vélos classiques, à assistance électrique, de vélos cargo pliants adaptés aux personnes en situation de handicap et d'occasion. Elle concernera près de 3/4 des métropolitains au regard des critères de ressources, témoin si besoin est de notre volonté de conforter le boom du vélo partout sur le territoire, en particulier sur les déplacements de courte et moyenne distance. Cap vers un hiver un peu particulier. La crise énergétique et climatique actuelle impose de changer nos comportements. Pour vous aider à passer un hiver confortable dans votre logement, tout en maîtrisant les coûts, plusieurs rendez-vous vous sont proposés, avec notamment les conseillers énergie de la métropole, qui vous aideront à mettre en place toutes les mesures pour baisser vos consommations de chauffage. Plusieurs dispositifs métropolitains d'aide également pour isoler votre logement, le rénover, changer votre chaudière, etc. N'hésitez pas à les solliciter. Enfin, et parce que la période approche, je vous souhaite, chères métropolitaines et chers métropolitains, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Christophe Ferrari, président de la métropole. Pour information, le magazine Métropole Mag est distribué dans les communes suivantes. Bresson, Briey et Angonne, Champs-sur-Drac, Champagné, Clé, Coran, Domaine, Échirolles, Ébain, Fontaine, Gières, Grenoble, Herbey, Jarry, La Tronche, le Fontanil-Cornillon, le Gois, le Pont de Clé, le Sapé en Chartreuse, Mélan, Miribel-Lanchâtre, Mont-Saint-Martin, Montchabou, Murianette, Notre-Dame de Commiers, Notre-Dame de Mésages, Noyaret, Poisa, Provézieux, Quai en Chartreuse, Saint-Barthélemy de Séchilienne, Saint-Égrève, Saint-Georges de Commiers, Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Paul de Vars, Saint-Pierre de Mésages, Sarcena, Sassenage, Séchilienne, Cessiné-Parisé, Cessin, Vars, Allières et Rissé, Volnavay-le-Bas, Volnavay-le-Haut, Venon, Verrey-Voroise, Vif et Visil. À retenir. Espace. Le plus puissant observatoire de l'hémisphère nord est Martinérois. Inauguré fin septembre sur le plateau de Bure d'Évoluy, l'observatoire Noema, un instrument gigantesque composé de 12 antennes de 15 mètres de diamètre, dont la construction avait débuté en 2013, vient d'être finalisé par l'Institut de radioastronomie millimétrique IRAM du campus de Saint-Martin-d'Air. Fruit d'une coopération de plus de 40 ans entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, il remplace l'ancien interféromètre du plateau de la Bure et permettra de mieux observer la formation et l'évolution des galaxies, des étoiles, des planètes et des molécules interstellaires, briques élémentaires de la vie. C'est notamment Noema qui, avec le télescope de 30 mètres de l'IRAM, a permis de présenter en 2019 la première image d'un trou noir. Déplacement. Qui veut tester gratuitement un vélo électrique? Vous résidez dans une commune ne disposant pas de point d'accueil M-Vélo plus. Toute commune de la métropole et du Crézy-Vaudan hors Grenoble et Saint-Martin-d'Air. le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, SMMAG, vient de lancer son nouveau dispositif de prêt de vélo à assistance électrique, VAE, gratuit pendant un mois. L'objectif du SMAG est de sensibiliser les habitants aux avantages de cette pratique avant de les encourager à passer à la location ou à l'achat. Pour plus d'informations, www.veloplus-m.fr. Agriculture. Un robot pour mieux protéger, fertiliser et irriguer les champs. Il est encore dans sa phase expérimentale, mais il pourrait bien débarquer dans les champs de l'agglomération d'ici l'automne prochain. Avec son poids plume de 15 kg et ses bâtons bardés de capteurs capables de couvrir 20 hectares par jour, le robot Senti V de la start-up mélanaise Meropy, M-E-R-O-P-Y, promet aux agriculteurs de les aider dans la gestion des besoins de leurs parcelles. Engrais, maladies, ravageurs, suivi des croissances. Avec pour bénéfice une meilleure rentabilité de l'exploitation agricole. Économie d'intrants, meilleur rendement et qualité des cultures. Une amélioration des conditions de travail, gain de temps et de confort. Et la préservation de la biodiversité, diminution des apports et du tassement des sols. Voir meropy.com. Don de soi, SOI. Donner ses cheveux à ceux qui n'en ont pas. La pratique se répand de plus en plus dans l'agglomération. Certains salons de coiffure proposent désormais à leurs clients de faire don de leurs cheveux. Objectif ? Permettre à des personnes malades de bénéficier de perruques de qualité à moindre coût. Il est aussi possible d'envoyer soi-même ses cheveux à des associations comme Solidaire, S-O-L-I-D-H-A-I-R, ou Fakehair, Don't Care, F-A-K-E-R-H-A-I-R, Don't Care, D-O-N-apostrophe-T, Care, C-A-R-E. Attention cependant, si certaines associations acceptent des mèches de 10 cm, d'autres demandent que ces dernières mesurent au moins 25 cm et que les cheveux ne soient ni abîmés ni décolorés. fakehairdontcare.fr, association.solidaire.fr. Édition. Les presses universitaires de Grenoble, PUG, fêtent leurs 50 ans. Avec un catalogue de 2500 titres faisant la part belle à l'économie, la sociologie, le droit, l'histoire locale, la psychologie, la communication ou encore les sciences cognitives, ce ne sont pas moins de 100 000 références qui sont vendues chaque année par les PUG. Créée en 1972 avec pour vocation d'éditer des livres scientifiques, elles sont la première coopérative du monde de l'édition. À 50 ans désormais, elles demeurent à ce jour les seules n'appartenant pas à une institution éducative. Sorti en 1887, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens reste leur best-seller, traduit dans une douzaine de langues et vendu à 500 000 exemplaires. www.pug.com. Capitale verte européenne, Valence succède à Tallinn et Grenoble. Après Grenoble, capitale verte européenne 2022, et Tallinn, déclarée capitale verte européenne 2023, c'est la ville espagnole de Valence qui a été désignée lauréate du titre capitale verte européenne 2024 devant Cagliari, Italie. Ce titre européen récompense chaque année une ville européenne de plus de 100 000 habitants à la pointe dans le domaine de la durabilité environnementale, sociale et économique. Un chèque de 600 000 euros lui sera attribué pour poursuivre ses efforts en matière de transition énergétique. Grenoble, capitale verte européenne. vers une transition énergétique. 10 défis, mes premiers pas. Lauréate du titre de capitale verte de l'Europe en 2022, Grenoble clôt cette année d'événements et d'engagements autour de la transition énergétique en vous proposant des défis pour commencer votre transition. Petite sélection de 10 actions simples à mettre en œuvre. Pour commencer. 1. Je calcule mon empreinte carbone et j'identifie les leviers d'amélioration. En 10 minutes sur nosgestesclimat.fr, je comprends quel est l'impact de mon mode de vie sur la nature et je trouve des idées pour changer mes habitudes. À la maison. 2. Je réduis mes consommations d'énergie et le montant de mes factures. Je crée un compte sur metroenergie.fr pour visualiser l'ensemble de mes consommations d'énergie et bénéficier de conseils pour les diminuer. 3. J'adopte la sobriété numérique et j'économise. Je limite mon nombre d'appareils électriques et électroniques connectés et j'évite de poster en ligne les photos et vidéos que je prends avec mon smartphone. Dans mon assiette, 4. Je consomme local, de saison et j'allège mon budget. J'affiche le calendrier des fruits et légumes de saison de l'ADEME dans ma cuisine sur librairie.ademe.fr et j'achète mes produits à des producteurs locaux. 5. Je mange moins de viande, mais de meilleure qualité. Je consomme moins de viande et lorsque j'en achète, je privilégie les producteurs locaux. J'adopte les légumineuses pour leurs protéines. Dans ma poubelle, 6. Je fais la chasse au gaspillage et je jette moins. J'achète et cuisine les bonnes quantités et j'apprends à accommoder les restes. 7. Je fais la chasse aux emballages et je jette mieux. Je privilégie l'achat de produits en vrac ou avec des emballages réutilisables et je me renseigne sur les règles pour trier mes déchets sur le site de la métropole grenoblealpemétropole.fr/emballage. Pour me déplacer, 8, je marche ou je roule à vélo pour mes trajets courts et je garde la forme. Pour les trajets de moins de 5 km, j'adopte la marche, je loue un vélo de la métro, MVélo Plus, ou je teste les vélos et trottinettes électriques en libre-service. 9, je prends les transports en commun et je gagne du temps. J'étudie les lignes de bus ou de tram à proximité de mon lieu de vie, de travail ou de mes loisirs sur tag.fr pour les emprunter dès que possible. Dans la nature, 10, je contemple la nature et j'apprends à la connaître. Pour mieux observer ce qui m'entoure, je m'équipe d'un guide pour découvrir la faune et la flore ou je participe à des visites guidées d'espaces naturels. grenoblealpemétropole.fr/nature. Un monde en transition. Convention citoyenne pour le climat. Défi relevé pour les citoyens de la Convention pour le climat. Les citoyens ont des vies et des avis différents. Pourtant, ils sont tombés d'accord sur 219 propositions pour tenter de sauver le climat. 8 mois d'intense travail collectif se sont écoulés. Les 100 citoyens de la Convention pour le climat ont rendu leur copie aux élus métropolitains. 219 propositions d'action pour limiter les gaz à effet de serre et tendre vers la neutralité carbone d'ici 2050 sur notre territoire. Le rendez-vous a été donné aux élus et aux citoyens dans l'hémicycle Claude Lorius de la métropole. Un an auparavant, c'est ce même conseil qui a voté le projet d'une convention citoyenne pour le climat, avec, comme point d'orgue, l'indépendance totale des citoyens tirés au sort dans l'exercice de leur mission à l'égard de la métropole. Pour cela, un comité de pilotage composé de 10 universitaires était chargé d'élaborer le programme et de fournir aux citoyens des informations fiables et vérifiables scientifiquement sur le sujet. En tant que chercheurs, à aucun moment nous n'avons exprimé notre avis. pour laisser les citoyens libres de se forger leur opinion sur l'urgence climatique, précise Sabine Lavorel, maître de droit public et coprésidente du comité. À ses côtés, l'agence Respublica a animé et organisé le dialogue sur toute la démarche. 9 thématiques et 219 actions prioritaires. La question climatique est transversale. À l'appui du savoir d'experts, les participants se sont répartis en groupes pour approfondir chaque thématique concernée. Alimentation, aménagement, mobilité, consommation, énergie, captation et séquestration du carbone, économie, éducation, formation et emploi. Au total, 219 prioritaires sont inscrites dans le rapport final. Extrait de la note introductive, je cite, « Nous souhaitons que les actions soient mises en place par les élus, même si elles sont impopulaires. Leurs effets positifs sur le long terme seront supérieurs aux contraintes induites par le changement à court terme. Nous vous soutiendrons dans la défense de ces propositions. » Fin de citation. Information, dialogue et pédagogie. Au début de l'aventure, tous n'étaient pas d'accord. Faire des choix pour le climat, c'est aussi accepter de faire des compromis, parfois contraignants à l'échelle individuelle. Mais à mesure de la prise de conscience qu'ils ont témoigné au regard du dérèglement climatique, les 100 conventionnés ont fait un pas de côté. Le rapport global a été voté à 87,8% des voix, malgré des avis encore partagés sur certaines propositions, notamment concernant la mobilité. À la lecture de ce rapport, les réactions du Conseil métropolitain ont alterné entre enthousiasme sur le travail mené et interrogation sur la faisabilité de la démarche. Gilles Laurent de l'agence Respublica précise, je cite, « Les citoyens ont des différences les uns des autres avec des vies totalement différentes. Pourtant, ils ont trouvé de la cohérence par le prisme de la justice sociale et environnementale. » Un citoyen intervient. « C'est à force de débattre, s'écouter et argumenter dans le respect. » Et maintenant, les propositions sont en cours d'analyse par les services métropolitains jusqu'en janvier 2023. Elles seront soumises au vote des élus en mars 2023 et, si certaines font débat, à la votation citoyenne pour aider à la décision. Les propositions ne resteront pas lettre morte. Le contexte géopolitique international nous oblige à revoir nos modèles, changer nos pratiques du quotidien et réorienter nos politiques publiques. Bref, à changer de braquet, assure Christophe Ferrari. Retrouvez toutes les propositions sur conventionclimat.grenoblealpesmétropole.fr. Énergie, la sobriété, c'est maintenant. Face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité, les particuliers et petites entreprises sont protégés par le bouclier tarifaire, mais pas les collectivités territoriales ni les grandes entreprises. La métropole veut donc diminuer ses consommations d'énergie sans fermer d'équipements publics ni restreindre ses services publics. Pourquoi la situation énergétique est-elle tendue ? La forte demande énergétique, conséquence de la reprise économique post-Covid, l'invasion de l'Ukraine, le manque d'eau dans les réserves hydrauliques, après la sécheresse de l'été et les problèmes de corrosion du parc nucléaire français, pose des problèmes pour les apports électriques, surtout aux heures de pointe. S'il fait très froid cet hiver, il faudra économiser de l'électricité. L'objectif, une baisse de 10% de la consommation. Comment éviter les coupures de courant? Pour éviter les coupures subies, nommées délestage, le système EcoWatt, mis en place par RTE, doit alerter toute la population pour limiter nos consommations. Si cela ne suffit pas, notamment aux heures de pointe, un plan de délestage a été programmé. En clair, il est probable, d'avoir des coupures d'électricité pendant quelques heures cet hiver. Les patients à haut risque vital, placés par exemple sous respirateur, doivent se signaler auprès de l'ARS pour bénéficier d'une information personnalisée si une coupure est programmée sur leur secteur d'habitation. Quel petit geste pour participer à cet effort commun? Je baisse. Diminuer la température de 1 degré chez soi est l'action qui a le plus d'impact sur la consommation d'énergie, de 5 à 7 %. J'éteins. La rengaine est connue. Couper ses appareils en veille, ses multiprises, sa box Internet quand on ne l'utilise pas. Les gains sont moins importants mais non négligeables. Je décale. Pour éviter les coupures aux heures de pointe, en gros le matin avant 9h et le soir entre 18h et 22h, il est souhaitable de ne pas lancer de machine à laver ou la cuisson d'un poulet dans ces créneaux, lorsque le réseau électrique est très embouteillé. Le chiffre 2,6 millions d'euros, c'est le surcoût estimé en 2022 de la facture énergétique métropolitaine, toutes énergies confondues, essence, gaz, électricité. EcoWatt, une alerte en cas de ou manque de tension. Cet outil du gestionnaire du réseau électrique, RTE, permet d'informer en temps réel, par mail ou par SMS, sur l'état du réseau. Si le signal est orange ou rouge, il est nécessaire d'enclencher des baisses de consommation. Chacun peut s'inscrire sur le site Mon EcoWatt et recevoir à titre personnel la météo sur 4 jours des consommations nationales et les alertes coupures. Le site recense également les éco-gestes au quotidien pour baisser sa consommation énergétique. Agir sur le long terme. Des mesures de plus long terme ont été engagées depuis longtemps par la métropole. Le programme MUR-MUR accompagne et finance les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, copropriétés ou lotissements. La prime air-bois pour changer une vieille cheminée ou un poêle défectueux. Métro Énergie et ses challenges, ainsi que les ateliers mensuels de l'ALEC, A-L-E-C, chauffera bien qui chauffera le dernier. Voir notre agenda spécial Énergie, page 16. Pour des infos, www.grenoblealpesmétropole.fr/énergie. Les entreprises peuvent être accompagnées pour baisser leur consommation. Diagnostic énergie gratuit pour les TPE et PME et aide financière pour des travaux de rénovation énergétique. Des animations sur la sobriété dans les entreprises. Sensibilisation pour appliquer la réglementation sur l'éclairage. Quelques conseils, pas chers, pour diminuer vos factures d'énergie. Vérifiez l'étanchéité de vos portes et fenêtres. Les travaux de rénovation sont coûteux et s'envisagent sur le long terme, mais il est possible de traquer les fuites à moindre coût, rouleaux de joints autour des ouvrants, bas de porte isolants, joints acryliques. Pensez à vérifier les trappes d'accès aux colonnes techniques où passent les réseaux d'eau et d'électricité, souvent mal isolés. Ventilez votre logement. Cela peut sembler paradoxal, mais il est plus facile de chauffer de l'air sec qu'humide. Il est donc nécessaire d'évacuer l'humidité produite par nos modes de vie. Douche, cuisine, même notre respiration, en installant une VMC ou en ouvrant ses fenêtres au moins 10 minutes par jour. Dépoussiérez les VMC, les entrées d'air au-dessus des fenêtres et les radiateurs. Gain de rendement jusqu'à 10%. Installez des rideaux thermiques en tissu épais. Fermés le soir et la nuit, ils empêchent la chaleur de sortir. Et pensez à fermer les volets la nuit pour gagner quelques degrés. Posez un tapis épais sur un carrelage ou un parquet pour bloquer la sensation de froid. Fermez les portes des chambres qui n'ont pas besoin d'être chauffées à 19 degrés. 16 degrés suffisent. Placez un panneau réfléchissant entre les radiateurs et le mur pour faire rayonner la chaleur dans les pièces. Il est aussi possible de coller des panneaux de liège sur les murs très mal isolés. Une métropole de plus en plus sobre. En interne, outre la baisse du chauffage à 19 degrés centigrades, la saison de chauffe des bâtiments métropolitains a été réduite de novembre à mi-avril, les horaires de chauffe en journée également. Les éviers et lavabos n'ont plus d'eau chaude, plusieurs sites administratifs seront fermés à Noël et le coworking ou le télétravail seront privilégiés. Des pulls sont distribués aux agents travaillant dans les bâtiments concernés. De décembre à mars, la production de froid de la patinoire sera coupée 2 fois 2 heures par jour sur les plages horaires du matin et soir. En cas d'alerte rouge EcoWatt, la métropole a prévu de couper le chauffage pendant 2 heures sur 3 bâtiments administratifs et de couper entre 2 et 6 heures certains process industriels de grands équipements, centres de compostage et aquapole, tout en respectant les prescriptions réglementaires pour les rejets à l'Isère. Le Stade des Alpes, Alpexpo, l'École supérieure d'art et design, le marché d'intérêt national, l'Office de tourisme, la Casemate, la MC2 ou l'Hexagone, pour ne citer qu'eux, sont mobilisés pour mettre en œuvre leur propre plan de sobriété. Dans les communes, l'extinction de l'éclairage public se généralise, ainsi que la baisse de la température dans les équipements publics. Réflexion. Vers des funérailles plus écologiques? L'impact environnemental de certaines pratiques, comme la crémation ou la conservation des corps, mérite réflexion. Comment réduire l'impact environnemental des obsèques? Comment conserver les corps? La transition funéraire propose de réfléchir collectivement à l'évolution de nos rites et pratiques funéraires et aux alternatives qui se développent. En 2021, la France a enregistré 657 000 décès, toutes causes confondues. Un chiffre qui a augmenté progressivement ces 10 dernières années et qui devrait poursuivre sa hausse. Seuls 2 modes de sépulture sont autorisés par la législation française, l'inhumation et la crémation. Qu'en sera-t-il demain? Ces pratiques posent en effet plusieurs problèmes. Certains cimetières, notamment ceux soumis à la pression foncière en milieu urbain, sont saturés, tout comme certains équipements funéraires nécessitant une remise à niveau. C'est le cas du crématorium métropolitain situé à Gières, qui tourne en surcapacité avec plus de 2300 crémations par an. Il se verra doté de nouveaux fours en 2023 pour faire face à la hausse des crémations, plus de 54% des métropolitains la plébiscitent. En outre, la crémation requiert l'utilisation de gaz et n'échappera pas à la hausse des prix de l'énergie. Enfin, la question de l'impact environnemental de ces pratiques est aussi posée par de nombreux experts. Quid de la pollution des sols et de l'air engendrée par les produits chimiques utilisés pour conserver les corps des défunts, comme le formol, classé substance cancérigène. Idem pour les métaux lourds accumulés dans les organes comme par exemple le mercure, très utilisé il y a quelques décennies pour les soins dentaires ou encore ceux liés aux traitements médicamenteux tels que les chimiothérapies. Éveiller les consciences. Très clairement, il n'existe aucune étude fiable sur l'impact environnemental des pratiques funéraires qui pourrait constituer une base de travail scientifique sur laquelle s'appuyer, ce qui complique les choses, explique Martin-Julien Coste, socio-anthropologue et chercheur associé à l'Université Grenoble-Alpes, laboratoire PACTE, P-A-C-T-E. Des initiatives émanent malgré tout dans certains territoires, comme à Niort ou... Un cimetière naturel a été créé par la ville. Les corps y sont déposés en pleine terre dans un cercueil ou une urne en matériaux biodégradables et le défunt ne reçoit plus de soins de conservation, sauf rare exception. Je cite. « Bien entendu, on ne changera pas de mode et de sépulture demain, car il existe un cadre législatif très strict, précise le socio-anthropologue. L'objectif est d'éveiller les consciences et de se demander collectivement ce que nous faisons autour de ces sujets. Fin de citation. Des sujets qui touchent à nos représentations de l'au-delà, au respect du corps, à nos cultures. Dans ce but, la métropole, qui fait partie des territoires précurseurs sur ces questions, a organisé en octobre une journée de réflexion sur la transition funéraire avec la ville de Grenoble et les pompes funèbres intercommunales. Et chez nos voisins étrangers. Aquamation en Angleterre, promession en Suède et en Allemagne, réduction du corps en compost par l'humusation dans l'État de Washington. De nouvelles pratiques sont expérimentées dans plusieurs pays. Celles-ci ont été présentées à l'occasion de la journée de la transition funéraire qui a fait salle comble et rassemblé une centaine de citoyens, élus, professionnels et opérateurs de pompes funèbres venus de toute la France autour de ces questions. Pour info, l'aquamation consiste à dissoudre les tissus du corps dans une solution aqueuse avant de broyer les ossements restants qui sont remis à la famille du défunt. Et la promession ou crémation par le froid vise à congeler le corps du défunt avant de le réduire en particules fines sur une table vibrante. Chronique du CO2. Émission du territoire grenoblois. Calculer son empreinte carbone, mode d'emploi. Accessible à tous, le site de l'ADEME, nosgestesclimattoutenun.fr, permet de calculer son empreinte carbone grâce à un test à réaliser en 10 minutes. L'intérêt de ce calculateur? Il apporte des solutions personnalisées et chiffrées pour engager sa transition écologique. Vous voulez réduire votre empreinte carbone, mais vous ne savez pas par où commencer. Avant de vous lancer dans votre démarche, l'ADEME vous propose de réaliser votre état des lieux personnel sur nosgestesclimat.fr. En ligne depuis 3 ans, ce calculateur vous permet d'obtenir votre empreinte carbone en tonnes d'équivalent CO2 par an, en fonction de votre mode de vie. Transport, alimentation, logement, consommation des biens et services, loisirs. Le simulateur épluche toutes vos habitudes pour les convertir en quantité de gaz à effet de serre émises. Le calculateur s'appuie sur des données connues, les émissions de CO2 moyennes liées à des unités de consommation, par exemple le kilomètre en berline thermique récente ou encore le kilogramme de viande rouge, explique Hervé Lefebvre, chef du pôle trajectoire à l'ADEME, qui ajoute « Ainsi, grâce à des questions simples sur le mode de vie quotidien, il parvient à estimer l'empreinte carbone individuelle. » Agir sur ces émissions, c'est possible. L'intérêt de ce calcul, il pointe pour chacun les leviers d'amélioration possibles. Une fois le test terminé, l'outil propose en effet, en fonction des différentes réponses, des actions à mettre en œuvre pour réduire son bilan carbone. Pour chacune des actions préconisées, le poids en kilogrammes de CO2 économisé est calculé. Ainsi, l'utilisateur peut chiffrer précisément son défi de transition écologique en tonnes de CO2. Il accède également à tous les détails du calcul pour mieux comprendre l'impact de sa consommation quotidienne. Cet outil est intéressant car le français moyen ne correspond à personne. C'est à chacun de faire évoluer ses habitudes en fonction de sa situation et de ses contraintes, conclut Hervé Lefebvre. Prochaine étape sur le site nosgestesclimat.fr, un calculateur d'empreinte carbone pour les ménages. Les chiffres clés. 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par habitant en moyenne en France en 2019. 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant fixées pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris en 2050. Le saviez-vous? L'empreinte carbone par habitant égale émissions directes de CO2, plus émissions liées à l'importation, moins émissions liées à l'exportation sur le nombre d'habitants. 6 exemples d'actions à fort impact. De 3 à 4 repas carnés hebdomadaires à 3 à 4 repas végétariens. Moins 534,5 kg d'équivalent CO2 par an. De la consommation d'eau en bouteille à l'eau du robinet, moins 215 kg d'équivalent CO2 par an. D'un aller-retour Paris-Marseille en avion à un aller-retour Paris-Marseille en train, moins 410 kg d'équivalent CO2. De l'utilisation de la voiture pour un aller-retour quotidien de 60 km au TER, moins 2370 kg d'équivalent CO2 par an. De l'équipement d'un petit appartement en mobilier neuf au mobilier seconde main, moins 587 kg d'équivalent CO2. De l'achat de vêtements neufs consommation moyenne à celui de seconde main, moins 471 kg d'équivalent CO2. Service public. Montagne. La station du col de Porte, rhabillée pour l'hiver. Parmi les nouveaux aménagements, une grande boussole peinte au sol, un quai de bus, de nouveaux stationnements et un nouveau sens de circulation, des tables et des bancs. Sens de circulation, quai de bus, stationnement en épi, tables et bancs. Le col de Porte à Sarcenat a fait l'objet d'aménagements pour améliorer l'accueil et la sécurité du public. La station du col de Porte, comme celle de Sapet en Chartreuse, est gérée par la métropole depuis 2021. Pour améliorer l'accueil du public, la collectivité a lancé des travaux d'aménagement et de voirie au printemps dernier. Ces derniers sont désormais achevés et le col de Porte est prêt à accueillir les amoureux de la poudreuse pour une nouvelle saison d'hiver. Première chose que l'on remarque en arrivant au col, c'est une grande boussole peinte sur le bitume pour susciter la curiosité et la vigilance des automobilistes. Au même endroit, un quai de bus a été construit pour améliorer l'accessibilité à la ligne 62 de la TAG. Inversion du sens de circulation. Le stationnement le long de la départementale D512 a été aménagé en bataille. Le sens de circulation a été inversé en direction de la prairie afin d'améliorer la sécurité, notamment des piétons. Le long de cette boucle, le stationnement est organisé, cette fois en épi. Sur le site de la prairie, des tables et des bancs ont été installés, ainsi que des toilettes sèches et des conteneurs poubelles enterrés. En outre, la métropole a financé l'installation d'une borne de recharge électrique et d'une webcam sur le pas de tir du stade de biathlon. Elle a également acheté une dameuse qui servira dès cet hiver sur les pistes de ski nordique des trois sites qui forment le domaine de Chamchaude, le col de Porte à Sarcenat, le Sapet en Chartreuse et Saint-Hugues de Chartreuse. Grenoble-Alpes-Métropole.fr/Col de Porte. Les forfaits pour la saison 2022-2023 en ligne. La station du Col de Porte est l'une des plus populaires de la région. C'est là qu'apprennent à skier beaucoup de petits métropolitains. Chaque année, environ 10 000 scolaires viennent y chausser leur premier ski. Les forfaits saison sont en vente sur le site internet du domaine de Chamchaude. Les forfaits journée seront disponibles dès que le site sera ouvert. chamchaude-nordique.fr. La Grande Odyssée, le 18 janvier. La 19e édition de la Grande Odyssée, la plus grande course de chiens de traîneau en Europe, se tiendra du 7 au 19 janvier 2023. La course débutera à Megève, en Haute-Savoie, et les deux dernières étapes se dérouleront en Isère. La Grande Odyssée passera par le col de Porte le 18 janvier et à Villard-de-Lans le 19 janvier. Cette course rassemble chaque année 65 bouchères, plus de 600 chiens et des dizaines de milliers de spectateurs. grandeodyssée.com. Concertation. ZFE, les réunions publiques se poursuivent. La métropole organise une large concertation sur la zone à faibles émissions, ZFE, destinée aux voitures individuelles. Elle sera mise en place mi-2023, mais selon quelle modalité? Plus de 500 contributions et commentaires sur la plateforme participative. Plus de 1000 personnes rencontrées lors des réunions publiques. La concertation sur la ZFE voiture suit son cours. Cette concertation doit aider la métropole à trouver le juste équilibre entre l'efficacité de la ZFE sur la qualité de l'air, la prise en compte des publics les plus vulnérables et le maintien de l'accès au territoire métropolitain pour les habitants des territoires voisins. Si les modalités ne sont pas encore fixées, elles le seront suite à cette concertation, le calendrier d'interdiction est déjà posé par le cadre légal. En 2023, les voitures classées Crit Air 5 ne pourront plus circuler dans la zone diesel d'avant 2001, essence d'avant 1997, soit 2% des véhicules de la métropole. En 2024, ce sera le tour des voitures classées Crit Air 4, diesel d'avant 2006, soit 3% des véhicules. En 2025, enfin, les voitures classées Crit Air 3, diesel d'avant 2011 et essence d'avant 2006, soit 12% des véhicules. Votre avis compte vraiment. 5 grandes questions vous sont donc posées. Faut-il une zone ZFE permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou des horaires d'interdiction? Quelles situations peuvent justifier la mise en place de dérogations? Quels grands axes routiers doivent être concernés ou au contraire exonérés? Quels dispositifs d'accompagnement ou aide financière doivent être mis en place? Les deux roues motorisées, moto, scooter, les plus polluants, doivent-ils être interdits au même titre que les voitures particulières? Participez aux réunions publiques mercredi 30 novembre à Sassenage de 18h à 20h au Théâtre en Rond, vendredi 2 décembre dans le Pays Voironnais de 18h à 20h, lieu à définir, et le lundi 5 décembre à Saint-Imier. À noter, la mise en place d'une ZFE pour les voitures est rendue obligatoire dans les grandes agglomérations françaises par la loi Climat et Résilience. Il existe déjà une ZFE pour les véhicules utilitaires depuis 2019, mais cette nouvelle ZFE concernera tous les propriétaires de voitures individuelles. Un mot de Laetitia Rahib, conseillère métropolitaine déléguée aux solidarités et à la politique de la ville. Nous avons besoin des citoyens pour définir les aides qui seront proposées aux métropolitains. C'est notre devoir d'élus que d'écouter, comprendre les interrogations, les craintes, et d'apporter des solutions concrètes, tant en termes financiers que de mobilité. Personne ne doit être laissé au bord du chemin. Coopération. Mutualiser pour gagner en efficacité et en économie. La métropole propose à ses communes membres d'adhérer à la carte à des services ou dispositifs mutualisés. La plupart d'entre elles sont engagées dans cette démarche. Permettre de se payer à plusieurs ce qu'on ne peut pas financer seul tout en gagnant en expertise. C'est en résumé la logique de la mutualisation. Une volonté métropolitaine qui est inscrite dans le pacte de gouvernance et de citoyenneté adopté fin 2021. Concrètement, il s'agit de mettre en commun des moyens, qu'ils soient humains, financiers ou logistiques, afin d'offrir un niveau de service et d'ingénierie équivalent pour l'ensemble des habitants de la métropole. Mais aussi, de réaliser des économies d'échelle et de bâtir de nouvelles formes de coopération. Assistance juridique, langue des signes, personnel périscolaire. Chaque année, la métropole fait parvenir à ses 49 communes membres son offre de mutualisation. Libre à elles d'y souscrire si elles sont intéressées et de soumettre de nouveaux chantiers engagés. L'objectif ? Créer une offre dynamique partagée. Parmi les mutualisations déjà existantes, les communes peuvent adhérer à plusieurs outils ou dispositifs, assistance juridique en ligne, service de langue des signes française, instruction des demandes d'urbanisme, remplacement de personnel périscolaire, centrale d'achat. 4 services communs ont également été créés en 2022 sur les thématiques suivantes. Accessibilité, plateforme numérique participative, protection des données et aménagement projet urbain. Ces services regroupent la métropole et les communes intéressées et sont financés par chaque membre à hauteur de son recours au service. Ils permettent de développer une culture commune de travail entre les services communaux et métropolitains, de constituer des équipes plus performantes et d'assurer la continuité de service. Parmi les autres pistes de chantier à venir, la mutualisation des applications cartographiques métropolitaines ou encore le prêt et la location de matériel de chantier métropolitain. En bref, une concertation autour de Chronovélo. Le prolongement de l'axe Chronovélo 1 entre Grenoble et Fontaine fait l'objet d'une concertation sur les aménagements des espaces publics autour de ce nouveau parcours. Celle-ci se déroule sur la plateforme participative de la métropole. Des ateliers de participation seront organisés également dans les deux communes. métropoleparticipative.fr. Tri des déchets alimentaires, le déploiement se poursuit. La métropole grenobloise est pionnière sur le sujet en France. Le tri des déchets alimentaires a débuté en mars 2019 et s'est déployé progressivement pour concerner aujourd'hui 260 000 habitants. Les communes de Mélan, La Tronche, Coran viennent de rejoindre le dispositif, ainsi que les secteurs 5 et 6 de Grenoble. grenoblealpemétropole.fr/déchets alimentaires. Un mot de Éric Rossetti, vice-président chargé des communes et de la proximité. Notre offre est pragmatique et promeut une action publique plus efficace, plus simple et moins coûteuse en mutualisant les moyens, mais aussi l'ingénierie des agents des communes et de la métropole. Nous espérons que les premiers exemples de réussite inciteront de plus en plus de communes à répondre à notre offre de mutualisation. Logement. Encadrement des loyers, nouvelle candidature de la métropole. Les services métropolitains ont affiné le périmètre de la zone tendue. Grenoble-Alpes-Métropole se porte pour la seconde fois candidate à l'encadrement des loyers sur 21 communes de son territoire. Les 21 communes concernées, pour la totalité ou une partie de la zone, Bresson, Gières, Saint-Martin-d'Hères, Clay, Grenoble, Sassenage, Domaine, Mélan, Cessinet-Parisé, Échirolles, Murianette, Cessin, Hébin, Poisat, La Tronche, Fontaine, Le Pont-de-Clay, Varces, Allières et Rissé, Le Fontanil-Cornillon, Saint-Égrève, Venon. L'objectif est d'éviter les abus, surtout sur les petites surfaces, et de faciliter ainsi l'accès au logement en zone tendue. On constate aujourd'hui dans l'agglomération des quartiers dans une dynamique de hausse des loyers, ce qui entraîne des écarts croissants du prix du mètre carré entre le parc social et le parc privé. Ainsi, avec une demande bien supérieure aux capacités actuelles du parc social, de nombreux foyers sont confrontés à des difficultés réelles pour se loger. La métropole, en rééditant sa démarche, souhaite élaborer un outil de concertation et d'aide au service des locataires. En effet, un loyer encadré hors charge ne pourra pas dépasser de plus de 20% la valeur de référence établie par le préfet du département, par catégorie de logement et par secteur géographique. Sur l'agglomération, cette valeur a été fixée à 11 euros le mètre carré, chiffre de l'Observatoire local des loyers. Dans les 21 communes concernées, le loyer médian le plus bas débute à 11,4 euros le mètre carré. En 2020 déjà, Grenoble-Alpes-Métropole avait déposé auprès du ministère du Logement une première demande d'encadrement des loyers sur 28 de ces communes. Cette demande avait été rejetée. L'État jugeant que, je cite, « le marché locatif de l'agglomération grenobloise ne montrait pas de signes de tension ». Fin de citation. Pour cette nouvelle démarche, les services ont affiné le périmètre en retirant les 7 communes qui ne sont pas situées en zone tendue. En bref, un nouveau Fab Lab pour l'école d'archi. Le chantier du nouveau Fab Lab de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, ENSAG, a été lancé au cœur de Grande Alpes. L'équipement prendra place dans l'ancien restaurant administratif du site de Prémalliance, situé avenue Marie-Renoir à Grenoble, et s'inscrit dans le cadre d'une opération d'urbanisme transitoire porté par la métropole sur le secteur. Il pourra accueillir jusqu'à 60 personnes et disposera de plusieurs espaces, fabrication, robotique, montage, conception, bureau. La volonté de l'ENSAG est d'ouvrir ce lieu à d'autres publics, habitants, scolaires, architectes, associations. Ouverture prévue en septembre 2023. maisonegalitefemmeshommes.fr. De nouvelles aides à l'achat d'un vélo. Le SMMAG, la métropole et la communauté de communes du Grésivaudan s'associent pour proposer à partir du printemps 2023 de nouvelles aides à l'achat d'un vélo classique ou électrique, cargo ou pliant. Cette aide concernera près des trois quarts des métropolitains au regard des critères de ressources. Plus d'informations dans les prochains numéros de Métropole Mag. La Métropole, agenda spécial énergie. Challenge. Réduire sa facture de chauffage. Métro Énergie se penche sur le chauffage. 6 semaines, 6 missions pour réduire votre consommation de chauffage. Quelle solution pour baisser ses factures? Participez au challenge et découvrez des astuces ou aménagements simples à mettre en œuvre. Événements en ligne, visioconférence, email, chat, surinscription, gratuit. Le plus, un kit économie d'énergie offert aux participants. Du 16 janvier au 19 février 2023, metroenergie.fr. Chantier découverte. La rénovation énergétique pour tous. Partez à la découverte du chantier de rénovation énergétique d'une copropriété grenobloise et échangez avec les copropriétaires. Dans le cadre de la campagne d'isolation mur-mur, l'ALEC ALEC vous invite à un atelier témoignage avec des membres du conseil syndical. Une présentation du dispositif mur-mur et une visite de chantier d'une copropriété en cours de rénovation. Samedi 10 décembre, espace de vie sociale 1 avenue Léon Blum à Grenoble. grenoblealpesmétropole.fr/agenda-énergie. Atelier. Le chauffage au bois bûche. Êtes-vous sûr de bien utiliser vos appareils de chauffage, inserts, poêle à bois ou cuisinière? Dans le cadre du dispositif de la prime Air Bois de Grenoble-Alpes-Métropole, l'Agence locale de l'énergie et du climat, ALEC, propose aux utilisateurs d'appareils de chauffage indépendants au bois des ateliers bonnes pratiques. Allumage par le haut, gestion de la combustion, entretien quotidien, achat du combustible. 7 décembre, 10 janvier, 8 février et 9 mars, à 18h30, locaux de l'ALEC, 14 avenue Benoît Frachon, à Saint-Martin-d'Air. Atelier « Chauffera bien, qui chauffera le dernier ?» Des échanges, conseils personnalisés et bons tuyaux pour maîtriser votre consommation de chauffage et améliorer votre confort cet hiver. 6 décembre, 17 janvier et 21 février, à 18h30 à l'ALEC, 14 avenue Benoît Frachon, à Saint-Martin-d'Air. Pour celles et ceux qui ont des projets de rénovation de leur logement, maison, copropriété ou lotissement, des visites et ateliers sont organisés tout au long de l'année par l'ALEC. Inscription aux événements grenoblealpemétropole.fr/agendaénergie ou espace info énergie de l'Isère au 04 76 14 00 10. Pratique. Nouveau kit bois. Une mallette kit bois est disponible en prêt à l'ALEC. Elle contient un thermomètre pour connaître l'efficacité de la combustion, un humidimètre pour mesurer le taux d'humidité du bois de chauffage et un capteur de particules fines pour mesurer la qualité de l'air durant les différentes phases de combustion. Cet appareil est livré avec un smartphone pour calculer les mesures durant le prêt. alec-grenoble.org. Conseil. Nouvelle permanence Info Énergie. La métropole accueille une permanence Info Énergie dans ses nouveaux locaux, place André Malraux à Grenoble. Trois conseillers de l'ALEC Grande Région Grenobloise sont présents pour informer et conseiller les habitants sur les questions liées à l'énergie, au chauffage. Accompagner les porteurs de projets de rénovation énergétique, murmure. D'autres permanences sont assurées à Mélan, Saint-Égrève, Cessin, Vif et Visil, sur rendez-vous uniquement au 04 76 14 00 10. Et pour plus d'informations, grenoblealpemétropole.fr/agendaénergie. Handicap, le mois de l'accessibilité. Un événement de sensibilisation au handicap qui rassemble tous les publics. Il se penche sur de nombreux enjeux, culture, sport, espace public, relations sociales et affectueuses, outils informatiques, le thème écologie et handicap. Jusqu'au 15 décembre, programme complet sur grenoble.fr. Science, les quatre saisons expliquées aux enfants. L'exposition Quatre saisons à la casemate a pour but d'expliquer le phénomène complexe des saisons aux 3-7 ans à travers manipulations grandes et petites, numériques ou non, mais toujours ludiques. Sur réservation, de 2 euros à 4 euros jusqu'au 21 décembre, lacasemate.fr/exposition. Ski. La foulée blanche. Grande course de ski nordique, classique et skating, ouverte à tous, à Autran, Méaudre en Vercors. Un week-end de course et de challenge pour toutes et tous, de 5 à 42 km. Deux journées dédiées aux scolaires, des essais de matériel, de nombreuses animations. Et aussi le défi hivernal connecté du 17 décembre au 17 janvier, via l'appli Foulée Blanche. Du 18 au 23 janvier 2023, inscription lafouleeblanche.com. Cinéma. Montagne en scène. Apportez la montagne en ville. Pendant deux jours, partagez toute la beauté des sports de montagne. une sélection des meilleurs documentaires liés aux activités de montagne y est présentée. Cinéma Pathé Chavant, les 15 et 16 décembre, de 19h30 à 23h. montagne-en-seine.com. Cinéma, Festival Nature et Environnement. Rendez-vous automnal de la métropole grenobloise, le Festival du cinéma Nature et Environnement de FNE Isère propose 10 jours de projection autour de l'actualité environnementale. L'édition 2022 sera aussi un voyage à travers les genres. Documentaires fantastiques, dystopiques, animations et films expérimentaux. Du vendredi 25 novembre au samedi 3 décembre dans plusieurs cinémas métropolitains. festivalfilmisere.org. Exposition. Les vélos de Douaneau. Des premières photos dans les années 30 jusqu'aux années 80, le vélo est présent dans l'œuvre de Robert Douaneau. À travers une sélection d'environ 75 images, cette exposition raconte à sa façon une histoire de la mobilité et des loisirs. Jusqu'au 21 janvier au couvent Sainte-Cécile, 37 rue Servan à Grenoble. couvent-sainte-cécile.com. Mushing, la grande odyssée. Depuis sa première édition en janvier 2005, c'est l'événement annuel du chien de traîneau en Europe. C'est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Cette année, un plateau sportif d'exception est attendu avec 68 mouchères et leurs 600 chiens athlètes venant de grandes nations du mushing européen. Le 18 janvier au col de Porte, 10e étape à partir de 14h. grandeodyssée.com. Musique. La folle nuit. 8 concerts, une conférence, des interludes musicaux dans le patio et un concert de clôture. La folle nuit à Grenoble explorera pour cette 9e édition la nuit. Une infinie variété d'atmosphères à travers des œuvres aussi bien vocales qu'instrumentales. Les 20 et 21 janvier, à l'auditorium du musée de Grenoble, 5 place de la Valette. musée-en-musique.com. Images, le mois de la photo. Chaque année, le festival du mois de la photo, organisé par la Maison de l'Image, met en valeur des talents émergents en développant une thématique qui construit la programmation des expositions photographiques à Grenoble. Jusqu'au dimanche 11 décembre à l'ancien musée de peinture de Grenoble, à partir du 1er novembre dans certains lieux partenaires. maison-image.fr. La métropole, info pratique. Mobilité. Agence M, conseil, vente de tickets bus et tram, horaires, abonnement. 51 avenue Alsace-Lorraine, Grand Place, 15 boulevard Joseph-Vallier, Grenoble, 431 avenue Ambroise-Croizat, Crolles. Relais tag du campus. Horaires, trafic, abonnement et recharge. 442 avenue de la Bibliothèque, Saint-Martin-d'Air, www.mobilité-m.fr. Agence M Vélo Plus. Location de vélos courte ou longue durée. 2 agences. Parvis de la Gare, Grenoble, et Campus Saint-Martin-d'Air, et de nombreuses agences mobiles dans les communes. www.veloplus-m.fr. accueil@metrovelo.fr. Téléphone 09 74 77 73 80. Cities. Location de voitures en libre service. Téléchargez l'appli Cities. C-I-T-I-Z. www.alpes-loire.cities.coop alpes-loire@cities.fr. Téléphone 04 76 24 57 25. Déchets, tri, numéro vert, collecte, conseil de tri, achat de bac, appel et service gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Téléphone 0800 50 00 27 www.grenoblealpesmétropole.fr/déchets. Logement. Faire une demande de logement social, améliorer son logement, mettre son bien en location ou devenir propriétaire en accession sociale, découvrez les actions de la métropole. www.grenoblealpesmétropole.fr/logement. Énergie. Réduire sa facture. Suivre vos consos d'énergie au quotidien, connaître les astuces pour les réduire. www.grenoblealpesmétropole.fr/métro-énergie. Changer sa cheminée. Avec la prime air bois, installer un appareil de chauffage bois plus performant et moins polluant. www.grenoblealpesmétropole.fr/poêle. P-O-E-L-E. Eau. L'eau potable. www.grenoblealpesmétropole.fr/eau potable. Pour Grenoble, Champs-sur-Drac, Clay et Chirol, Ebain, Gières, Mélan, Mont-Saint-Martin, Noyarais, Provézieux, Quai en Chartreuse, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, Sassenage, Vars, Verey-Voroise. Téléphone de 8h à 12h et de 13h à 16h30 au 04 76 86 20 70. Pour les autres communes de la métropole, téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 04 85 59 50 00. Les eaux usées, www.grenoblealpesmétropole.fr/eau usée et téléphone 04 76 59 58 17. Voirie. Problème sur l'espace public. Nid de poule, mobilier cassé, feu tricolore défectueux. Contactez-nous au 0800 500 027 ou sur le site www.grenoblealpesmétropole.fr/voirie. Participation. Plateforme participative, nouveau site web. Consultation en ligne, interpellation citoyenne, appel à projets divers, enquête publique, boîte à idées. www.métropoleparticipative.fr. À noter, mégots et lingettes, fléau des rivières et de la mer. Les mégots jetés sur les trottoirs et les lingettes jetées dans les toilettes sont les déchets les plus dangereux pour les milieux aquatiques et le système d'assainissement. Quand il pleut, les mégots passent par les grilles d'eau pluviale des caniveaux et arrivent directement dans la rivière puis dans la mer. Un mégot pollue 500 litres d'eau. C'est pour cette raison que des macarons, ici commence la mer, ont été posés près des grilles d'eau pluviale. Tout ce qui est jeté dans la rue peut se retrouver dans la mer. Ne jetons rien dans la rue. Les lingettes, même indiquées biodégradables, ne se dégradent pas dans les canalisations. Elles obstruent les grilles, bloquent les pompes et abîment les installations, ce qui oblige les égouttiers à les sortir régulièrement des réseaux. Chaque année, ce sont autour de 900 tonnes de lingettes qui sont retirées des eaux usées. Et quand il pleut, il arrive que les égouts débordent dans la rivière avec toutes les lingettes qui ont été jetées dans les toilettes. Alors, n'utilisons pas nos toilettes comme une poubelle. grenoblealpesmétropole.fr/ici commence la mer. Territoire. Do it yourself. Fabricable, des artisans au service du réemploi. Vous rêvez d'apprendre à fabriquer ou réparer vos objets du quotidien? La plateforme web Fabricable vous propose des stages, ateliers et cours de savoir-faire manuel auprès de 25 artisans en Rhône-Alpes. Un premier pas pour repenser ses modes de consommation. Très implanté dans la métropole grenobloise, Fabricable travaille avec une quinzaine d'artisans en Isère. Donner une nouvelle vie à ses chaussures abîmées, relooker ses vieux meubles, élaborer ses savons et shampoings solides, s'initier à la broderie. Et si vous appreniez à fabriquer ou réparer au lieu d'acheter ou jeter? Depuis ce début d'année, la plateforme Fabricable, à prononcer à la française, présente une offre large de stages, ateliers et cours chez les artisans de la région. Fabrication, réparation, upcycling et rénovation d'objets, le site vise à partager la richesse de l'artisanat tout en accompagnant un public large vers une réduction de l'impact environnemental lié à la consommation de produits neufs. L'idée de Fabricable est née durant un long voyage en vélo quand je me suis rendu compte que je ne savais rien faire de mes mains, confie Ghislain de Saint-Léger, cofondateur de la plateforme avec Adat Joss. Il explique « Avec Fabricable, nous souhaitons donner les moyens aux gens d'apprendre à fabriquer par eux-mêmes. Ils repartent du stage avec les techniques et secrets des artisans pour refaire ce qu'ils ont appris à domicile et éventuellement repenser leur mode de consommation. » Tous les niveaux pour toutes les envies. Autre particularité de l'offre, ces formations restent à taille humaine, souvent autour de 4 personnes, et elles répondent à différents besoins. De l'atelier de 2h30 à partir de 25 € au stage de 5 jours à 700 €. Simple envie de partager un moment de découverte, engagement pour réduire sa consommation en devenant plus autonome, projet de rénovation de maison, ou premier pas vers une reconversion professionnelle. Les niveaux, durées et approches s'adaptent à toutes les envies. En Rhône-Alpes, mais aussi en Bourgogne et Bretagne, 70 activités sont ainsi proposées chez des artisans. Je cite « Fabricable vise à valoriser le beau travail de nos artisans locaux, tout en leur permettant de compléter leurs revenus et de faire parler d'eux », ajoute Agathe Joss. Lorsque l'offre d'activité n'existe pas, nous accompagnons l'artisan dans sa conception. Seule l'envie de partager ses connaissances est indispensable. Prochaine étape des deux entrepreneurs basés à la pépinière grenobloise Poussada, développer des prestations événementielles avec les artisans pour les entreprises. L'aventure Fabricable ne fait que commencer. Fabricable.fr. Logement social. Locataire HLM, à vous la parole. Jusqu'au 15 décembre, les locataires HLM vont voter pour choisir leurs représentants. Les candidats élus pour 4 années seront membres du conseil d'administration des différents bailleurs sociaux du territoire. Ces élections sont essentielles pour garantir la parole des locataires lors de chaque décision engageant le quotidien d'un immeuble ou d'un quartier. Pourquoi voter? Parce que les représentants défendent les intérêts des locataires et donc leur qualité de vie au quotidien, auprès des bailleurs sociaux. Travaux, entretien des parties communes, gestion des résidences, maîtrise des charges, attribution des logements, soucis de voisinage. Parce que les représentants sont aussi des locataires qui vivent dans les mêmes résidences. Ils partagent donc les mêmes intérêts et connaissent la réalité du terrain. Parce que les représentants ont un pouvoir de décision au sein des instances des organismes. Orientation stratégique du bailleur, budget, augmentation de loyer. Sur tous ces sujets, ils participent à la prise de décision du conseil d'administration et s'assurent ensuite que le bailleur respecte ses obligations. 6 fédérations. Les votes ont lieu jusqu'au 15 décembre par correspondance ou par Internet. Le dépouillement s'effectuera dans la foulée pour aboutir à 3 à 5 locataires élus au sein du conseil d'administration de chaque bailleur. La métropole compte, avant les élections, 6 fédérations disposant d'au moins un représentant dans un conseil d'administration. La CGL, Confédération générale du logement, la CLCV, Consommation, logement et cadre de vie, la CNL, Confédération nationale du logement, la CSF, Confédération syndicale des familles, l'INDECOSA, CGT, Information et défense des consommateurs salariés, et le DAL, droit au logement. Logement social, témoignage. Faire le lien entre le bailleur et les habitants. Fatima, quartier Chambertin, Saint-Martin-d'Air. Depuis 2019, le bailleur Pluralis poursuit d'importantes rénovations dans le quartier Chambertin à Saint-Martin-d'Air. Isolation de l'habitat par l'extérieur, balcon, réfection des salles de bain et des cuisines dans chaque appartement, etc., où réside une large communauté portugaise. Lorsqu'il a fallu engager le dialogue entre habitants et bailleurs, Pluralis s'est tourné vers Fatima, qui, avec son époux, fait partie des anciens du quartier. 2005 pour elle, 1998 pour lui. Je cite. Il fallait quelqu'un de parfaitement bilingue pour expliquer aux locataires ce que les entrepreneurs et notre bailleur allaient mettre en œuvre. Et comme je connaissais aussi beaucoup de monde par le biais des parents, d'élèves et de mon ancien travail de garde d'enfants, Pluralis et le salarié d'une fédération de locataires sont venus me proposer ce rôle de médiatrice en lien avec une association de locataires. Cette relation de proximité a vraiment été importante. Surtout quand il a fallu reloger certaines familles au plus fort des travaux ou quand le chauffage s'est arrêté l'année dernière dans les premières montées d'immeubles réhabilités. Nous avons assisté à toutes les réunions avec les entrepreneurs et le bailleur et participé à toutes les rencontres de conciliation. Aujourd'hui encore, mon téléphone sonne chaque jour. Les gens ont pris l'habitude de me demander de l'aide dans beaucoup de démarches. Un dossier de logement, un souci de voisinage, une fuite d'eau, des papiers administratifs à remplir. Cela a aussi créé une certaine habitude de rendez-vous. J'ai souvent 5 ou 6 habitantes le mercredi après-midi à la maison. On parle du quartier autour d'un café. Nicolas Beron-Pérez, vice-président chargé de l'habitat, du logement et de l'hébergement. Je cite. Les représentants de locataires sont un maillon essentiel de la démocratie locale au sein des immeubles et dans les quartiers. Tous les locataires HLM sont invités à les élire pour défendre leurs droits et améliorer le dialogue avec les bailleurs. Résident du village olympique depuis 1976, Jean-Claude connaît son quartier. Prendre part au bien-être des habitants, être un soutien aux locataires, fut une démarche naturelle dès que la retraite lui en a laissé le temps. Depuis 2006, il est un des représentants des locataires auprès d'Actis. Je cite. Être bien dans son logement est un droit fondamental et c'est un sujet qui me tient à cœur. Nous sommes là pour accompagner les locataires dans leur démarche, porter leur parole auprès du bailleur. Je ne me substitue jamais aux résidents. Je ne suis pas là pour initier une réclamation, mais pour la structurer dans le cadre du code du logement. Lorsqu'il s'agit de relogement, de régularisation de charges, d'attribution d'appartements, de gêne occasionnée par une mise en travaux dans les copropriétés, etc. Les réunions sont nombreuses, les discussions parfois difficiles, mais cela participe à une vie plus démocratique dans le quartier. Depuis quelques années, les réhabilitations thermiques se succèdent. Personne ne peut alors faire l'impasse sur la médiation entre locataires, ingénieurs, architectes, bailleurs. Être un représentant des locataires me place au cœur de ce dialogue. En 2005, par exemple, Actis a initié d'importants travaux aux 32 et 34 Marie Raynouard qui ont généré un bruit infernal pour les habitants. Nous avons réussi à obtenir 20 000 euros de compensation, échelonnée selon la gêne occasionnée. C'est ce genre de prise de conscience de la parole des locataires qui me rend fière. Fin de citation. Exposition. Ces projets qui auraient pu changer la face de Grenoble. Jusqu'au 3 décembre, rendez-vous à la plateforme pour l'exposition Grenoble, retour vers le futur. Une rétrospective saisissante sur des projets d'aménagement qui auraient pu transformer durablement le visage de la métropole grenobloise. Imaginez la Bastille, saturée de barres d'immeubles et parcourue par des milliers d'étudiants. Imaginez des flots de curistes européens venus se soigner à Grenoble, devenue ville thermale. Imaginez enfin les rues de notre métropole, rayées, zébrées, sillonnées par des infrastructures de métal exubérantes. L'histoire en a décidé autrement. En 1811, transformer Grenoble en une ville thermale est imaginé par l'empereur Napoléon. Porté par les maires successifs, cette ambition sera débattue de haute lutte durant un siècle. L'idée est d'acheminer les eaux sulfureuses et salines de la Motte-les-Bains, déjà connue des Romains, via une conduite de 31 km en direction de Grenoble, où un établissement thermal serait construit à côté du jardin de ville. Tout ça, épaulé par la création d'établissements touristiques, théâtres, musées, restaurants, hôtels, mais des études contradictoires pointant l'insuffisance des débits ou l'impossibilité de conserver la chaleur de ces eaux généreuses font douter. Sans compter la concurrence d'Aix-les-Bains après son annexion en 1860 et les craintes respectives de voir augmenter les taxes ou édifier un casino, synonyme de dépravation. La Première Guerre mondiale mettra un terme définitif à cette ambition centenaire. Au bout de chaque rue, une estacade. Dans les années 50, pour affirmer la place de la recherche à Grenoble, l'ambition est de créer un centre universitaire international s'étendant de la Bastille à la Tronche. Accessible par la route existante et depuis le Quai de France via un ascenseur urbain, cette cité prévoyait des instituts, un pavillon étudiant, un pavillon Afrique occidentale français et une tour rectorat. Si l'idée avait vu le jour, les joggeurs que l'on y rencontre aujourd'hui n'auraient sans doute pas connu les mêmes joies. L'accès routier étroit et les contraintes d'assainissement nécessitaient des aménagements trop coûteux. À ce projet, on préféra donc l'édification d'un campus à l'américaine à Saint-Martin-d'Hères. Dernier projet largement nourri durant les années 70, mais finalement abandonné, le POMA 2000 de l'entreprise Pomagalski. À une époque où le tout-voiture est la norme, les villes de France sont congestionnées. Il faut repenser les modes de transport. À ce titre, POMA 2000 propose de construire à Grenoble un réseau de rails sur des estacades aériennes permettant à des cabines de 20 places de desservir 5000 personnes à l'heure. L'expression de Stendhal aurait sans doute été « au bout de chaque rue, désormais une estacade ». Après 5 ans d'expérimentation poussée, le projet finit par capoter au profit du tramway, mais surtout en raison de difficultés d'insertion urbaine, d'inconnues financières, de crainte de dénaturation du centre-ville et de la crainte du bruit. La plateforme Centre d'information sur les projets urbains 9 Place de Verdun à Grenoble. Technologie. Le forum 5i fête son quart de siècle et devient l'e-forum. Pour ses 25 ans, le forum 5i fait peau neuve et devient l'e-forum Innovation by Grenoble Alpes. labellisé Grenoble Capitale Verte Européenne, l'événement qui se veut une vitrine de l'innovation se déroulera le 8 décembre au World Trade Center de Grenoble. L'IFORUM aura pour thème cette année la Green Tech. L'objectif est de valoriser des projets en faveur de la transition écologique du territoire. Une table ronde sera organisée ainsi avec le Pacte économique local pour aborder les solutions d'adaptation aux dérèglements climatiques et aux limites planétaires. Trois villages. Comme les années précédentes, l'IFORUM mettra en valeur les innovations technologiques dans trois villages. Le premier, consacré aux projets issus de la recherche académique, le deuxième aux projets industriels matures et le troisième, le e-venture, réservé aux startups de la zone alpine. Elles y présenteront leurs projets à des investisseurs français ou étrangers. Avec plus de 500 participants à chaque édition, l'IFORUM s'affirme comme l'une des principales manifestations européennes de soutien au développement d'entreprises innovantes. Cette année, l'événement sera placé sous le parrainage de Maude Vinet, physicienne et directrice du programme quantique du CEA LETI de Grenoble. Forum5i.fr. Écologie et économie. Grand défi, la métropole aux côtés des entreprises. La métropole a accueilli en septembre une session du Grand défi des entreprises pour la planète. Cette initiative citoyenne mobilise des entreprises pour élaborer 100 propositions visant à accélérer la transition de l'économie. Pendant 2 jours, des chefs d'entreprise venus de toute la France, des scientifiques et des élus, dont Pierre Véry, vice-président de la métropole chargé de l'air, de l'énergie et du climat, se sont réunis à Grenoble pour identifier les freins à la transition et, plus globalement, nourrir la réflexion collective. Par ailleurs, la métropole organise le 28 novembre à Alpexpo le premier forum entreprise et environnement. L'objectif de ce nouveau rendez-vous est de faciliter l'engagement des TPE-PME du territoire dans les transitions. 5 ateliers thématiques seront organisés. Énergie, mobilité, achats, déchets et biodiversité, pour échanger sur les besoins des acteurs économiques. La métropole soutient enfin la Convention des entreprises pour le climat, lancée en 2021 pour aligner le monde de l'entreprise en France avec l'accord de Paris sur le climat. La CEC a mobilisé 150 entreprises en France, dont 12 en Isère, à Raimond, Rossignol, Caterpillar, Poma, etc. En 2023, la CEC se déploiera sur l'arc alpin. Les entreprises candidates ont jusqu'au 15 décembre pour intégrer la démarche. grenoblealpmétropole.fr/entreprises au pluriel et environnement. Les petits métropolitains. Une rubrique pour les plus jeunes. Savez-vous où se cache Titeuf à Grenoble? Avez-vous levé les yeux devant la grande porte rouge au 37 rue Servan à Grenoble? Une statue de Titeuf est fièrement posée là. Que fait ce drôle de garçon à l'entrée d'un ancien couvent de Grenoble? Titeuf est un jeune garçon de 10 ans, reconnaissable à sa mèche blonde dressée sur la tête. C'est un héros de bande dessinée créé par Philippe Chapuis dit Zep. Cet illustrateur suisse l'a imaginé en 1992 en observant les enfants dans la cour de récréation de l'école face à son bureau. Titeuf se pose beaucoup de questions, surtout sur le monde des adultes. Il se demande à quoi cela ressemble de grandir, dit des gros mots. Il a toute une bande de copains, Manu, Hugo et François, et est secrètement amoureux de l'India. Ses expressions favorites sont « Tcho » et « C'est pas juste ». Son père est au chômage. Titeuf est un héros pas ordinaire, contrastant avec les anciens héros de la littérature jeunesse, Lucky Luke ou Tintin. C'est pour cela que Zep peine à trouver un éditeur. Il est heureusement remarqué par Jean-Claude Camano, qui travaille aux éditions Glénat. Ils décident de travailler ensemble. Le tout premier album de Titeuf sort en 1992 et est tiré à 8000 exemplaires. C'est un succès immédiat. Aujourd'hui, 17 albums ont été édités, 20 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde et la bande dessinée est traduite dans plus de 25 pays. Le tome 18 paraîtra au deuxième semestre 2023 avec un tirage prévu de 400 000 livres. Le succès de Titeuf dépasse le monde de la bande dessinée. En 2011, le film « Titeuf, le film » est réalisé. Jack Glénat, le fondateur de la maison d'édition Glénat, qui est grenoblois, organise la même année l'exposition « Cho entre au couvent Sainte-Cécile à Grenoble ». À cette occasion, il décide d'installer la statue de Titeuf. Il passe commande à Claude Chevènement, un tailleur de pierre de Saint-Antoine-l'Abbaye, et installe cette sculpture au-dessus de la grande porte rouge qui marque l'entrée de la librairie Glénat. Elle est inaugurée par Zep en personne en mars 2011. Le choix de Jacques Glénat est original. D'habitude, dans les niches décorant les bâtiments religieux, les architectes installent des statues de Marie, la mère de Jésus, ou des saints célèbres comme Saint-Pierre ou Saint-Joseph. Dans la niche de l'entrée principale du couvent Sainte-Cécile, personne ne se souvient de la statue d'origine. Les archives n'ont pas de traces. Alors aujourd'hui, place à ce jeune héros des temps modernes. Un petit peu d'explication sur des termes. Un éditeur, c'est une personne souvent aidée d'une équipe qui assure l'impression et la mise en vente des ouvrages d'un auteur. La maison d'édition, c'est une entreprise qui assure la fabrication et la vente des livres. Elle est l'intermédiaire entre un auteur et des lecteurs. Et l'ancien couvent Sainte-Cécile à Grenoble est aussi un des endroits où travaillent les équipes de la maison d'édition Glénat. Glénat, une fierté grenobloise. Le couvent Sainte-Cécile est un ancien monastère acquis en 2004 par les éditions Glénat. Cette maison d'édition fondée en 1969 par Jacques Glénat, originaire de Grenoble, a choisi d'installer le siège social de la société dans cette ville. Après des travaux de rénovation, les équipes s'installent dans le lieu en 2009. L'ancien couvent est ouvert au public. Il offre trois lieux, l'espace d'exposition temporaire, le cabinet Rembrandt, réservé aux gravures de l'artiste, ou la librairie. Les éditions Glénat sont devenues une entreprise internationale. Patrimoine. Les toqués du trolley. L'association Standard 216 restaure un trolleybus des années 50 qui a circulé à Grenoble. La Fondation du patrimoine a lancé une souscription en ligne pour aider ses bénévoles. C'est une histoire de passionnés. Cela ne peut pas être autrement. Depuis plus de trois décennies, les bénévoles de l'association Standard 216 et du musée Histobus Dauphinois récupèrent des autocars, bus et trolleybus de la région grenobloise pour les restaurer. Belle-Clos, Berlier, Savième, Renault, près d'une quarantaine de véhicules de ces marques, pour la plupart disparus, sont exposés au pont de Clé, les plus vieux datant des années 30, dans un atelier de plus de 3000 m². L'un des 67 trolleybus des années 50 à 70. Ce sont des dons ou plus rares des ventes à l'association qui apportent ces grands témoins en tôle de l'histoire des transports en commun. À chaque fois, c'est un travail de longue haleine qui attend les bénévoles. Des milliers d'heures de recherche, de photos anciennes, de croquis détaillés, de pièces détachées, et de restauration, tôlerie, mécanique, peinture. C'est sûr, il faut un grain de folie, sourit Jean-Marie Guetta, secrétaire de l'association. Le dernier arrivé est sorti des usines en 1951. un trolleybus Vetra VBR-H déniché à Villard-de-Lans au fond d'un champ. Son dernier propriétaire en avait fait un grand camping-car. Le parallélépipède de 10 mètres de long apparaît aujourd'hui dépouillé, mis à nu, cabossé et pour tout dire, mal en point. Le tableau de bord, les sièges et le moteur ont disparu. Restent les pneus fatigués, le plancher en bois poussiéreux et une vieille publicité peinte en jaune pour une marque, elle aussi disparue, de vêtements pour hommes. Du tram au trolley, puis au tram. Cette grande carcasse fut l'un des 67 trolleybus à circuler dans l'agglomération grenobloise entre les années 50 et 70. Ces derniers ont remplacé le tramway à la fin des années 40 avant de céder leur place au tramway à partir des années 80. Le réseau dont on peut encore observer d'anciens câbles aériens a compté jusqu'à 4 lignes. 8 modèles Vetra VBR-H ont circulé dans l'agglomération. Le musée Histobus Dauphinois détient 2 autres trolleybus grenoblois, un Vetra VBF de 1957 et un Berlier ER-100 de 1977. Pour remettre en état le dernier arrivé, l'association Standard 216 a reçu le soutien de la Fondation du patrimoine qui a lancé une souscription sur Internet. Un peu moins de 2 000 euros ont été réunis pour l'instant, mais il en faudra davantage pour retaper entièrement le trolleybus. Nous sommes 6 à travailler dessus et chacun vient quand il peut, précise Jean-Marie Guetta, pas vraiment impressionné par le travail à accomplir. Pour nous, ce n'est pas grand-chose, un peu de temps et un peu d'argent, et c'est tout. On y arrivera, comme pour les 10 autres véhicules que nous avons déjà restaurés depuis 1996. Parole de passionné. Plus d'infos sur standard216.com et fondation-patrimoine.org. Le musée Histobus Dauphinois au Pont de Clé. L'espace Histobus Dauphinois, mis à la disposition de l'association par la métropole, accueille gratuitement le public, mais sur rendez-vous uniquement. Il est ouvert sans rendez-vous 2 fois par an, lors de la Nuit européenne des musées au printemps et des Journées européennes du patrimoine à l'automne. Tribune. Expression des 7 groupes politiques représentés à la métropole. Chacun d'entre eux dispose de 900 signes pour exprimer son point de vue. UMA, une métropole d'avance, 37 membres. Anne-Sophie Olmos, conseillère municipale de Grenoble. Lionel Coiffard, conseiller municipal de Vizille. Coprésidente et coprésident du groupe. CCMC, nous saluons les propositions. La crise climatique avance 2 fois plus vite dans les Alpes. L'été que nous avons passé rappelle l'urgence à réduire de façon significative nos émissions de GES. À nous d'être à la hauteur, de prendre en considération l'ensemble de ces propositions. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de décrédibiliser le principe des conventions citoyennes alors qu'elles sont un instrument utile pour surmonter, dépasser ou proposer une solution à la crise de la forme représentative de nos démocraties. La portée du processus est incontestable, et la qualité et l'importance du travail des citoyens méritent d'être saluées. L'exercice mené avec la CCMC est très positif pour le débat, pour la prise de conscience et le suivi des actions proposées. Ces mesures pourraient constituer une nouvelle vision territoriale dès aujourd'hui pour la métropole jusqu'à 2050. Une métropole d'avance.fr. NMC, notre métropole commune. 24 membres. Jean-Luc Corbet, maire de Varces-Allières-Hérissé. Anaïde Mardi-Rossian, adjointe au maire de Saint-Martin-le-Vinou. Marc Odon, maire de Venon, coprésident et coprésidente du groupe. Pour une zone à faibles émissions, ZFE progressive et inclusive. Après la ZFE pour les véhicules professionnels, la métropole mettra en place le même dispositif pour les particuliers à partir de juillet 2023. Si l'ensemble des communes ne font pas partie de la zone de restriction, elles seront toutes impactées, y compris celles situées sur les coteaux, en périphérie et zone rurale. C'est pour ces territoires qu'il est nécessaire d'aménager les infrastructures indispensables au report modal, mais aussi de développer un RER métropolitain. La mise en place de la ZFE pour les particuliers doit se faire de façon progressive et inclusive, sans laisser de côté les métropolitains dépendants de leurs véhicules. Les dérogations peuvent être imaginées sous certains motifs ou à des moments précis de la journée et de la semaine. Une grande concertation publique est lancée sur le sujet. Vous pouvez faire entendre votre voix sur la plateforme métropoleparticipative.fr, lors des réunions publiques ou en sollicitant vos élus métropolitains. facebook.com/notre-métropole-commune. Acte. Arc des communes en transition écologique et sociale. 17 membres. Souad Grand, maire adjointe du Pont-de-Clé, Bertrand Spindler, maire de La Tronche. Co-présidente et co-présidente du groupe Faibles émissions, fortes émotions. La zone à faible émission de particules nocives pour la santé, ZFE, est l'outil qui permet d'améliorer la qualité de l'air en empêchant la circulation des véhicules les plus polluants. Il ne suffit pas de dire la ZFE tout de suite et pour tous. Cela suscite un émoi bien naturel. Il faut comprendre qui, quand ou pourquoi. Il faut comprendre que les alternatives à l'automobile ne sont pas les mêmes au centre et en périphérie de la métropole. Grand rouleur, petit rouleur, travail, loisirs, services. Il faut savoir nuancer le diagnostic, écouter, expliquer, comprendre et ensuite adapter les contraintes. Car pour sauvegarder la santé des plus fragiles, il doit y avoir des contraintes. Adapter ces contraintes, mais aussi adapter les solutions et les aides. La métropole s'y emploie, mais elle ne peut pas le faire seule. La région, l'État, doivent aider à aider. facebook.com/elusacte au pluriel point la métro. CCC. Commune, coopération et citoyenneté. 13 membres. Jean-Paul Trovero, conseiller municipal de Fontaine, président du groupe Commune, coopération et citoyenneté. Léa Assali, conseillère municipale de Saint-Martin-d'Air. Nicolas Beuron-Pérez, adjoint au maire de Grenoble. Flambée de la facture énergétique, les ménages et les collectivités trinquent. La flambée des prix de l'énergie jette de nombreux ménages dans la précarité énergétique. Les mesures mises en place par le gouvernement ne feront que limiter la casse. Les collectivités territoriales, à l'exception des petites communes, au nom des logiques de marché, ne bénéficient plus du tarif régulier depuis 2021. Leur facture est parfois multipliée par 7. Pour le budget principal de la métropole, qui applique des économies d'énergie, le surcoût reste limité. Mais pour MTAG, la facture électrique passe de 3,4 millions d'euros à 16,8 millions d'euros. Pour les communes qui ont beaucoup d'équipements, la situation est souvent catastrophique. Le gouvernement s'est enfin résolu à proposer une compensation pour les collectivités très insuffisante. Cette situation, y compris à l'EDF, c'est aussi le bilan de la libéralisation du secteur de l'énergie. Pour le bien commun, le climat, bâtissons un pôle public de l'énergie. facebook.com/commune-coopération-citoyenneté. CCM. Commune au cœur de la métropole. 13 membres. Dominique Escaron, maire du Sapé en Chartreuse, président du groupe. ZFE. Pour réduire la pollution, la métropole crée une usine à gaz. La métropole fait du zèle et essaye d'aller plus vite que la loi. Pourtant, ce sont ceux sur qui les crises ont déjà le plus fort impact qui vont devoir supporter la charge d'un changement de véhicule en pleine crise des prix et de l'énergie. Autant le réseau de transport en commun et le vélo sont adaptés au cœur de métropole, quoique, autant ces modes de transport posent problème en périphérie et dans les villages. Comment expliquer toutes les exceptions à la règle? Un habitant du Trièves qui va à l'hôpital, mais pas à Métropolitain, la rocade ouverte à tout type de véhicules. Comment faire respecter ces règles qui se rajoutent à celles du contrôle technique, avec l'anti-pollution pourtant, et qui n'est déjà pas correctement appliquée? À trop vouloir en faire en communication, la métropole va encore une fois passer à côté de son objectif de santé publique et créer une usine à gaz qui ne les réduira que peu. facebook.com/ccmgrenoble. MPTS, Métropole Territoire de Progrès Solidaire. 11 membres. Laurent Toviste, adjoint au maire de Fontaine, président du groupe. Convention citoyenne, une opération de com? Pour associer les citoyens à la lutte contre le changement climatique, la métropole a organisé une convention pour le climat. Celle-ci a réuni 100 habitantes et habitants tirés au sort dans les différentes communes pour formuler un certain nombre de propositions. Nous tenons à les remercier pour le temps qu'ils ont consacré à réfléchir aux actions à mettre en œuvre. Leur point de vue sur les changements de comportement attendus et la façon dont ils sont perçus est extrêmement important pour réussir la transition. La balle est désormais dans le camp de la majorité. Que feront-ils de ces réflexions? Beaucoup d'entre elles étaient déjà connues ou sont déjà prévues par la loi. Pourquoi ne pas les avoir mises en œuvre? Et surtout, comment mobiliser les différents acteurs, communes, entreprises, qui n'ont pas été associés pour que ceci ne soit pas qu'une opération de com. Grenoble-Alpes-Métropole-mtps.fr facebook.com/grenoble-mtps twitter.com/grenoble-mtps. GO-SDDCC, 3 membres, plus membres hors groupe. Alain Carignon, conseiller municipal de Grenoble, président du groupe d'opposition Société civile, divers droites et centres, OSCDDC. Dominique Spini et Nicolas Pinel, conseillères et conseillers municipaux de Grenoble. Déplacement. La métro paralysée. Les élus de la majorité grenobloise font machine arrière pour le projet de métrocâble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou. Pourtant, ils avaient eux-mêmes porté ce projet lorsqu'ils présidaient le SMTC, ex-SMMAG. Ce revirement est purement politicien, parce qu'ils ne digèrent pas d'avoir manqué la présidence de la métropole et perdu celle du SMMAG. Les élus d'Éric Piolle paralysent le territoire. Cette posture est d'autant plus irresponsable que depuis leur arrivée au pouvoir, nous stagnons en matière de mobilité. La part modale des transports en commun bloque depuis des années à 16% en l'absence de développement du réseau et en raison d'une insécurité grandissante. Même la part modale du vélo n'est que de 7% dans la métropole. Malgré l'autosatisfaction des uns et des autres, notre territoire est paralysé. Écrivez-nous societécivile38@gmail.com. 119 conseillers métropolitains. Le Conseil en direct, prochaine séance publique, vendredi 16 décembre à 10h. Attention, le lieu a changé. Les séances se déroulent désormais au 1 Place André Malraux à Grenoble, dans les nouveaux locaux de la métropole. Pour toutes les informations sur le lieu et les conditions, rendez-vous sur grenoblealpesmétropole.fr/conseil-métro. Sur le web, le Conseil métropolitain sera visible en direct sur grenoblealpesmétropole.fr. Le seul pouvoir que ta position te confère, c'est celui d'augmenter son salaire. Harcèlement, chantage, remarques sexistes. Non à toutes les violences faites aux femmes. 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Numéro d'écoute gratuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 39 19. Maison pour l'égalité, femmes, hommes, Grenoble, Alpes-Métropole. Grenoble, Alpes-Métropole, 3 rue Malakoff, 38031, Grenoble, CEDEX 01, téléphone 04 76 59 59 59. Accueil du public au 1 Place André Malraux à Grenoble. grenoblealpesmétropole.fr/contact. Votre magazine Métropole Mag est enregistré pour vous par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3000 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix. Ils sont accessibles à la BS de Grenoble-Isère, soit en CD, CDA ou MP3, ou sur clé USB. Vous pouvez consulter notre catalogue sur le site www.bsgrenoble.org. Toute personne dont l'empêchement de lire est attesté peut bénéficier de nos livres audio. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences. À Fontaine, 86 boulevard Joliot-Curie, le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h. À Grenoble, à la maison diocésaine, 12 place Lavalette, face au musée, le troisième vendredi de chaque mois, de 14h à 16h. En outre, nos adhérents ont accès à près de 20 000 livres et plus de 30 revues de presse par téléchargement sur le site Les Bibliothèques Sonores de France de l'association Les Donneurs de Voix, https://lesbibliothequessonores.org. Et pour nous contacter, le téléphone, le 04 76 26 71 28, ou le courriel, 38g@advbs.fr. Ici se termine l'enregistrement intégral de Métropole Mag numéro 5, automne-hiver 2022-2023, sur les mois de novembre et décembre. Nous restons à votre écoute pour tout commentaire sur cet enregistrement. Et nous vous souhaitons une très bonne fin d'année 2022 et une année 2023 pleine de projets enrichissants personnellement et socialement. À très bientôt.